Envoyer un courriel ou un message texte de Montréal à Paris, ben ça prend exactement une fraction de seconde.
Ouais, c'est littéralement instantané.
C'est ça. Dans l'écosystème numérique, l'océan Atlantique n'existe tout simplement pas. Les frontières, ce sont des concepts complètement obsolètes.
C'est fluide, c'est de l'information pure.
Exactement. Mais au moment où on essaie d'envoyer une boîte physique, mettons de l'équipement électronique ou une nouvelle ligne de vêtements, le long de ce même trajet, ben la réalité frappe un mur.
Et quel mur! Un vrai mur de briques administratifs?
Vraiment. Soudainement, cette belle frontière invisible se transforme en une véritable forteresse. On parle de douanes complexes, de formulaires algorithmiques et de frais cachés qui peuvent ruiner une marge bénéficiaire en un clin d'œil.
C'est le choc brutal entre la vitesse d'Internet et la lourdeur de la géographie physique, tu sais.
Bon, décortiquons tout ça. Parce qu'expédier du Canada vers la France, de l'extérieur, ça ressemble à un véritable parcours du combattant. L'objectif aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier cette logistique internationale à partir de notre source, ce fameux guide détaillé sur l'expédition vers la France.
Et c'est essentiel de le faire. Le but, c'est d'extraire les informations cruciales pour que n'importe quelle entreprise ou même un individu puisse comprendre les rouages sans se laisser submerger par la paperasse.
Ouais, rendre ça gérable et même stratégiquement avantageux. Parce que c'est un parcours du combattant qui est très ancré dans la matière au final.
Absolument. On vit au quotidien avec cette illusion de fluidité globale, mais la logistique internationale, elle, est soumise aux lois de la physique et surtout à la géopolitique fiscale. On aime quand les choses sont binaires, genre expédiées ou livrées.
Mais tout un monde entre les deux.
Exact. La réalité entre ces deux statuts, c'est un écosystème d'une complexité fascinante. La France, dans ce contexte, n'est pas qu'une simple destination sur une carte.
C'est une porte d'entrée, hein?
Tout à fait. C'est l'une des portes d'entrée les plus réglementées, mais aussi les plus lucratives pour accéder à l'ensemble du marché européen.
Ce qui m'amène directement à la question de la vitesse et de la réalité physique. Avant même de parler de taxes ou de douanes, il faut comprendre comment une boîte traverse physiquement l'océan de nos jours.
Bien, c'est la base, oui.
En regardant nos sources sur les méthodes d'expédition, on voit quatre grandes catégories. Il y a les services express, qui promettent de 3 à 5 jours ouvrables.
Ça, c'est pour l'urgence.
Exact. Ensuite, le fret aérien standard qui oscille entre 4 et 7 jours, l'option économique qui étire ça à 2 ou 3 semaines, et finalement, la voie de surface par bateau qui se compte carrément en mois.
C'est tout un éventail d'options.
Historiquement, on utilisait souvent l'analogie de l'ambulance pour l'express et du taxi pour le standard. Mais honnêtement, je trouve que ça manque de nuances. C'est plutôt comme choisir la bande passante d'un réseau physique.
Ah, c'est une bien meilleure façon de le voir. Si on relie ça à la situation globale de la chaîne d'approvisionnement, le fret aérien standard, cette fameuse fenêtre de 4 à 7 jours, c'est vraiment la bande passante optimale pour le commerce électronique.
Pourquoi le standard est si optimal, au juste?
Ce qu'il faut comprendre sur le plan mécanique, c'est que ce fameux standard voyage très souvent dans les soutes des vols passagers commerciaux réguliers.
Ah, avec les bagages des voyageurs.
Exactement. Des corridors massifs comme Toronto vers Paris ou Montréal vers Lyon tournent à plein régime parce que des vols quotidiens. On a aussi Vancouver vers Marseille, Calgary vers Toulouse ou Edmonton vers Bordeaux.
Fait qu'on profite de l'infrastructure existante.
Voilà. L'express, en revanche, utilise souvent des réseaux d'avions cargo dédiés avec des tris automatisés ultra-prioritaires. C'est pour ça que c'est plus rapide, mais beaucoup plus cher.
Ah! Je te relance là-dessus. Mettons que je suis une PME canadienne en pleine croissance, tu sais. La tentation est forte de tout basculer en express pour offrir une expérience ultra rapide à mes clients français.
C'est le réflexe naturel de vouloir imiter les géants du web.
Ouais, mais même si je paye le prix fort pour ce vol cargo dédié, mon colis voyage pas dans une bulle étanche. Une tempête de neige à l'aéroport de Calgary ou de Montréal, puis l'avion reste cloué au sol.
Absolument. Ou encore, on arrive en novembre, la période de pointe des fêtes. L'espace physique dans un avion, c'est pas élastique.
C'est ça. La météo et les saisons s'en balancent de notre logistique.
L'espace est fini, en effet. En haute saison, les algorithmes des transporteurs entrent en mode triage intensif. Si la soute est pleine, même un colis express peut subir des retards parce que le volume global engorge les cendres de tri au sol.
C'est le goulot d'étranglement.
Exact. Sans oublier la réalité du dernier kilomètre, ton vol direct Toronto vers Paris atterrit en 8 heures, formidable, mais si le destinataire habite dans un petit village rural en région, le colis doit être transféré sur un réseau de camions locaux.
Ah ouais, La route de campagne.
C'est là que le véritable délai s'accumule. Payer une fortune pour l'express n'accélère pas la vitesse du camion sur une petite route de campagne française.
Ce qui nous pousse directement dans le cœur du réacteur, les coûts et l'art de la tarification. C'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui, prépare-toi. C'est souvent un choc pour les expéditeurs.
Parce que la facture d'un envoi international ne dépend pas juste de ce que la balance indique, n'est-ce pas? On parle ici du concept du poids volumétrique.
C'est le concept fondamental que la majorité des entreprises comprennent trop tard. Les compagnies aériennes ne vendent pas seulement des kilos, elles vendent de l'espace cubique.
De l'espace dans la soute.
C'est ça. Le mécanisme est simple, mais brutal. Ils prennent la longueur, la largeur et la hauteur de la boîte. Ils multiplient ces chiffres, puis divisent le résultat par un diviseur dimensionnel standard de l'industrie.
OK, attends. Donc, si j'envoie une boîte immense, remplie de manteaux d'hiver en duvet, la boîte est super légère, elle pèse, mettons, 2 kilos au total.
Oui, 2 kilos sur la balance.
La compagnie aérienne va me facturer comme si ça en pesait 15. Juste parce que ma boîte prend la place de centaines de petits composants électroniques beaucoup plus denses.
Exactement ça. Le calcul retiendra toujours le chiffre le plus élevé entre le poids réel et le poids volumétrique. Optimiser le vide dans une boîte n'est pas juste une question écologique.
C'est une stratégie de survie financière, Jean.
Absolument. Envoyer de l'air coûte extrêmement cher. Mais ce coût de transport, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La vraie variable qui détruit les marges, c'est le cadre fiscal européen à l'arrivée.
Parlons-en de cette fiscalité. En France, on parle d'une TVA, donc une taxe sur la valeur ajoutée, de 20 %. C'est énorme.
C'est le tarif standard, oui. Et ça s'applique sur la valeur de la marchandise plus les frais de transport.
Ouch! Et c'est ici qu'entrent en jeu deux acronymes qui régissent la logistique internationale, le DDP et le DAP.
Les fameux Incoterms.
Ouais. Le DDP, ou rendu droit acquitté, signifie que l'expéditeur paye les douanes et les taxes à l'avance. Le DAP, rendu au lieu de destination, signifie que l'expéditeur ne paye que le transport et laisse le destinataire gérer les taxes.
C'est une distinction cruciale.
Attends, je me fais l'avocat diable une seconde. Mettons que je dirige une petite entreprise québécoise, mes liquidités, c'est le nerf de la guerre. Pourquoi est-ce que j'irais amputer mon flux de trésorerie en payant 20 % de taxes européennes d'avance pour mon client?
C'est la réaction typique.
Mais oui. La stratégie logique sur papier, ça serait de choisir le DAP pour garder mes coûts initiaux au plancher, non? Chercher le moins cher.
Ce qui est fascinant ici, c'est que cette logique comptable à court terme est la recette parfaite pour détruire la valeur à vie d'un client. Regardons la mécanique opérationnelle du DAP en Europe.
OK, vas-y. Montre-moi le scénario catastrophe.
Le colis arrive en France. La douane le bloque parce que la TVA n'est pas payée. Le transporteur de dernier kilomètre doit avancer les fonds, ce qui génère des frais de courtage supplémentaires.
Des frais administratifs par-dessus la taxe.
Exact. Ensuite, le livreur sonne à la porte du client français et lui réclame une facture surprise de 35 euros, par exemple, avant de lui remettre la boîte qu'il croyait avoir déjà payée en ligne.
Ah, wow! Le client se sent littéralement pris en otage.
Totalement. Le taux de refus à la porte explose dans ces conditions. Et quand un colis est refusé en DAP, non seulement l'entreprise canadienne perd la vente, mais elle doit payer les frais de retour transatlantique.
Ou pire, j'imagine.
Au pire, oui, payer pour faire détruire la marchandise directement à la douane. C'est une perte totale. En revanche, le mécanisme du DDP change complètement la donne.
Comment ça fonctionne concrètement?
Le courtier en douane dédouane ses envois de façon consolidée. L'information fiscale est transmise électroniquement avant même que l'avion n'atterrisse. Le colis passe les frontières sans friction.
Fait qu'il arrive chez le client comme s'il s'agissait d'un achat local en France.
C'est ça, une expérience d'achat fluide et sans surprise.
La fluidité a donc un prix initial pour le vendeur, mais elle garantit la complétion de la transaction. C'est super logique. Mais attention, même avec un écoterme DDP bien ficelé, la boîte doit franchir le test ultime.
La redoutable douane française.
Exact. J'ai l'habitude de voir les douanes comme une sorte de péage autoroutier. T'sais, tu paies et tu passes. Mais nos sources démontrent que c'est bien plus sophistiqué que ça. C'est un véritable pare-feu de données, un data firewall.
C'est une excellente image.
Si les métadonnées de ton expédition ne correspondent pas au millimètre près au contenu physique du paquet, le pare-feu rejette tout. C'est le professeur qui corrige avec une tolérance zéro.
L'analogie du pare-feu est redoutablement précise. Les douanes modernes ne fouillent pas les boîtes au hasard. Elles scannent des flux de données. Et le langage de ce flux, c'est le code SH. Le système harmonisé.
C'est quoi exactement ce système?
C'est une nomenclature mondiale pour classer les produits. Le problème majeur qu'on observe, c'est la subjectivité de l'expéditeur face à un algorithme qui, lui, est purement objectif.
OK, prenons un exemple concret. Mettons, je vends des chaussures. Sur ma facture commerciale, j'écris simplement « chaussures pour hommes ». Pour moi, c'est hyper clair, il n'y a pas de confusion.
Ben, pour le système douanier, c'est une anomalie instantanée.
Sérieux? Juste le mot « chaussure »
S'agit-il de chaussures avec une semelle en cuir ou en caoutchouc? Le dessus est-il en matière textile ou en matériaux synthétiques? Une chaussure de sport n'a pas le même taux de taxation ni le même code SH qu'une chaussure de ville en cuir.
Hein, c'est à ce niveau de détail-là?
Si le code n'est pas ultra-spécifique, on parle d'un code à 6, 8 ou même 10 chiffres selon la destination, l'algorithme bloque le processus. Un agent humain doit intervenir, ouvrir la boîte, inspecter le produit et le reclassifier.
Fait qu'on vient de perdre 3 jours et d'engendrer des frais de dossier juste pour un manque de précision.
Et c'est la cause numéro 1 des retards. La clarté documentaire, c'est le seul véritable passeport de ta marchandise.
Et ça, c'est sans même aborder la question des interdictions ou des restrictions qui sont légion. Évidemment, on ne parle pas d'expédier des explosifs ici.
Non, on parle de la réalité commerciale quotidienne.
Ouais, betrut normaux, les cosmétiques par exemple, avec les réglementations européennes super strictes sur les ingrédients, ou les batteries au lithium. Pourquoi une simple batterie de téléphone devient-elle soudainement un enjeu de sécurité nationale pour le transporteur?
Mécaniquement, c'est une question de physique dans un environnement sous pression.
Dans l'avion?
C'est ça. Une batterie au lithium défectueuse dans une soute d'avion dépressurisée peut entrer en emballement thermique. Ça déclenche un incendie chimique que les systèmes d'extinction standard peinent énormément à maîtriser.
Ah wow, c'est terrifiant dit de même.
C'est pour ça que ces batteries, même intégrées dans un banal ordinateur portable ou un jouet, exigent des étiquettes de marchandises dangereuses hyper spécifiques et des emballages certifiés. Ignorer cette réglementation, c'est s'exposer à des amendes colossales.
Ouais, on rigole pas avec ça. Il y a une autre faille majeure que je vois souvent évoquée dans les données, c'est la tentation de la sous-évaluation.
Ouf, oui. La fausse bonne idée par excellence.
Mettre une valeur déclarée de 15 $ sur une facture commerciale pour un équipement électronique qui en vaut 800, tout ça dans l'espoir de contourner la fameuse TVA de 20 %. Je suppose que les agences douanières ont des systèmes qui repèrent ça à des kilomètres de distance, non?
Absolument. Croire que ça va passer inaperçu, c'est de la naïveté algorithmique pure et simple.
Comment ils font pour le savoir? Ils peuvent pas deviner le prix.
Les douanes françaises utilisent des modèles prédictifs basés sur l'intelligence artificielle. Ils croisent le code SH, le poids du colis, l'historique de l'expéditeur et la valeur déclarée.
C'est du profilage de données?
Exactement. Si un colis pèse 4 kg, qu'il est classifié comme équipement audio haute fidélité et qu'il est déclaré à 15 $, le pare-feu déclenche une alerte rouge immédiate.
L'équation mathématique ne fonctionne pas.
Et les conséquences sont systémiques. Ce n'est pas juste ce colis-là qui est saisi. C'est l'entreprise expéditrice canadienne tout entière qui est fichée. Leurs prochains envois seront systématiquement audités.
Fait que c'est un risque opérationnel complètement démesuré juste pour économiser quelques euros sur une vente.
C'est se tirer une balle dans le pied.
Bon, si je résume tout ce qu'on vient de dire, je dois calculer un poids volumétrique complexe. Je dois choisir entre 4 vitesses en tenant compte des goulots d'étranglement saisonnier et de la météo.
C'est ça.
Je dois avancer 20 % de TVA via le DDP, chercher des codes SH à 8 chiffres pour distinguer du cuir et du caoutchouc et faire attention à la chimie des batteries.
Ça fait beaucoup d'étapes.
Si j'expédie, je sais pas, 3 colis par mois, je peux gérer ça sur un fichier Excel. Mais si j'ai 100 commandes qui tombent par jour vers Lyon, Paris, Bordeaux et Marseille, ben là, la limite de l'effort manuel est pulvérisée. C'est l'effondrement administratif assuré pour une PME.
C'est impossible à gérer manuellement à grande échelle. Et cela soulève une question importante. Comment une entreprise peut-elle espérer croître si elle perd des heures chaque jour sur de la paperasse? C'est là qu'on passe d'une logistique artisanale à une logistique à l'échelle industrielle.
L'évolution technologique, donc.
Voilà. Faire affaire directement avec un seul transporteur et copier-coller des données manuellement sur leur site Web pour chaque commande, c'est archaïque. L'industrie s'appuie aujourd'hui sur des plateformes multitransporteurs, des agrégateurs via API.
Les sources mentionnent soit des solutions comme Freightcom. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour l'utilisateur? Concrètement, comment fonctionne l'intégration de ces API?
C'est assez fascinant. L'idée de ne plus être limité à un seul transporteur est séduisante, mais mécaniquement, c'est le moteur de règles d'affaires qui fait tout le travail.
Explique-moi ça.
Quand une commande entre sur la boutique en ligne canadienne, l'API envoie automatiquement les métadonnées, le poids, les dimensions, la destination, le fameux code SH, à la plateforme. En l'espace de quelques millisecondes, l'algorithme interroge simultanément les serveurs de multiples transporteurs mondiaux.
OK, fait qu'il magasine à ta place.
Exact. Il compare les tarifs, évalue les délais réels en fonction de la saisonnalité et sélectionne la meilleure option pour ce paquet spécifique.
Donc, l'algorithme agit comme un courtier ultra rapide. Mm-hmm. Mais est-ce qu'il gère aussi ce fameux pare-feu douanier dont on parlait tantôt?
C'est là la véritable puissance de ces outils. Au moment où l'étiquette d'expédition est générée pour être imprimée, la plateforme génère également la facture commerciale électronique conforme.
Avec les bonnes informations?
Oui, incluant le bon code SH et la structure DDP dont on a parlé. Ces données douanières sont transmises électroniquement le système ETD pour Electronic Trade Documents directement aux douanes françaises.
Avant même que la boîte quitte l'entrepôt.
Le processus est centralisé. L'expéditeur n'a qu'à coller l'étiquette sur la boîte. Le risque d'erreur humaine dans la paperasse tombe pratiquement à zéro.
C'est brillant. Et au niveau du suivi, on sait à quel point le numéro de suivi s'est devenu le tranquillisant numérique par excellence pour gérer l'anxiété du consommateur.
C'est tellement vrai. Au lieu de demander aux clients d'aller chercher sur 5 sites différents selon le transporteur qui était choisi ce jour-là par l'algorithme, l'API consolide les statuts.
Ah, tout au même endroit.
Du ramassage initial à Toronto, en passant par le dédouanement à l'aéroport Charles de Gaulle jusqu'à la signature finale à Bordeaux, l'information redescend directement dans le système de l'entreprise canadienne.
Ça permet d'automatiser les courriels de statut et de vider la boîte de réception du service client, j'imagine.
Exactement, ça sauve le temps fou en support client.
C'est une asymétrie fascinante quand on y pense. Grâce à l'intégration d'une plateforme multitransporteur, une PME de 10 employés à Montréal peut déployer une infrastructure logistique qui rivalise avec celle des géants du commerce mondial.
Ils ont accès aux mêmes outils, pratiquement.
L'algorithme absorbe la complexité et regroupe le volume de tous ses utilisateurs pour négocier des tarifs corporatifs qui seraient inaccessibles autrement. On vient transformer un centre de coûts lourd en un avantage concurrentiel automatisé.
Et c'est un pivot impératif pour survivre, parce que si on passe 4 heures par jour à remplir des formulaires douaniers à la main et à marchander au téléphone avec des courtiers, on ne consacre pas ce temps à l'innovation.
Ni au marketing, ni au développement de produits.
Automatiser la conformité, c'est libérer du capital humain pour ce qui compte vraiment.
Bon, faisons une synthèse rapide de la mécanique qu'on vient d'analyser aujourd'hui. Expédier du Canada vers la France avec succès, ça repose sur une architecture précise. Premièrement, on aligne la méthode d'expédition avec la réalité du terrain. Le fret aérien standard offre la meilleure bande passante en acceptant que la météo et le dernier kilomètre dictent le rythme final.
Exact.
Deuxièmement, on neutralise le choc financier et la friction à la livraison en utilisant l'incoterme DDP, ce qui garantit la conversion du client. Troisièmement, on traite les douanes comme un pare-feu intransigeant avec des codes SH hypergranulaires et une valeur réelle, parce que l'IA des douanes ne laisse rien passer.
La tolérance zéro, comme tu disais.
Et quatrièmement, on externalise toute cette charge cognitive à un logiciel multitransporteur pour orchestrer les flux de données en temps réel. La maîtrise de ces 4 éléments garantit la pérennité de l'entreprise sur le sol européen.
La prévisibilité devient ton produit final, au fond.
Ouais, c'est très bien dit. Mais avant que l'or, il y a une perspective inattendue qui se cachait dans les notes techniques de nos sources. Il y a une petite section qui mentionne brièvement que ces mêmes stratégies, ces mêmes architectures de données douanières s'appliquent de façon identique pour l'expédition vers le Royaume-Uni, malgré le Brexit.
Effectivement. Et la mention du Royaume-Uni n'est pas anodine du tout.
Non, ça amène à une réflexion fascinante pour notre auditoire. Ça change complètement le paradigme. On a passé toute cette analyse à disséquer le marché français. Avec sa barrière de la TVA à 20 % ses codes HH hyper restrictifs, son besoin de documents irréprochables.
On a vu ça comme un obstacle massif à surmonter.
Mais en réalité, si une entreprise prend le temps d'intégrer une plateforme multitransporteur, d'apprivoiser la facturation des DP et de maîtriser cette bureaucratie-là, mais elle vient pas simplement d'apprendre à livrer un colis à Paris.
Ah non!
Elle vient de bâtir l'infrastructure technologique et méthodologique exacte pour dominer n'importe quel marché réglementé. C'est ça. La France agit comme le test de résistance ultime. Si vos données et vos opérations sont assez robustes pour passer le pare-feu douanier français sans friction, le reste de l'Europe, le Royaume-Uni ou même les marchés asiatiques, ça devient de simples variations sur un même thème.
L'architecture de base est déjà opérationnelle. Le plus dur est fait.
C'est une réalisation super puissante. Maîtriser la route vers la France n'est pas une fin en soi. C'est le test ultime pour la domination logistique mondiale. On ne pousse plus des boîtes dans des avions en espérant que ça passe. On déploie un système de données qui rend ces murs de briques administratifs invisibles.
Et le monde devient votre marché local?
Et finalement, avec cette machinerie en place, expédier cet équipement de Montréal jusqu'à l'autre bout du monde, ben ça se rapproche de plus en plus de la simplicité d'envoyer un simple courriel.